Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission sur les Pères de l'Église. Nous sommes plongés dans le livre de la Genèse, commenté par saint Jean Chrysostome, et nous voyons aujourd'hui l'homélie dixième de ce recueil. Saint Jean Chrysostome commente les versets suivants. « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et Dieu créa l'homme et il le créa à l'image de Dieu. » Il les créa mâle et femelle. Vous n'avez certainement pas oublié que j'avais commencé à vous parler de la formation de l'homme, et que, pressé par l'heure, je ne pus qu'indiquer l'utilité qu'il retira du service des animaux. J'ai prouvé aussi que sa désobéissance seule lui a fait perdre sur eux l'empire qu'il avait d'abord possédé. Aujourd'hui, j'achèverai ce sujet et vous renverrai ensuite. » Mais pour rendre ma parole plus intelligible, il est utile de commencer cet entretien en nous rappelant la fin du précédent et en le complétant. Je vous expliquais donc ces versets de la Genèse, et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. » Cette matière est si vaste, et elle me fournit une telle abondance de pensées qu'il m'a été impossible de passer outre. Ainsi, je m'arrêtais à ce passage sans toucher à celui qui suit immédiatement. C'est pourquoi il est nécessaire de le relire, afin que vous en compreniez mieux le développement. Or, l'Écriture ajoute « Et Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, et il le créa mâle et femelle. Dieu les bénit, disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et vous l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ces paroles sont courtes, mais elles renferment un riche trésor, et l'Esprit divin qui parlait par la bouche de Moïse veut nous y révéler de grands secrets. Le Créateur, après avoir dit « Faisons l'homme », semble se recueillir et prendre conseil, comme pour nous montrer la dignité de l'homme dans l'acte même de sa création. Car l'homme n'existait pas encore, mais déjà Dieu révélait toute l'éminence de l'empire qu'il lui donnerait. C'est pourquoi, après avoir dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il ajoute en parlant au pluriel qu'il domine sur les poissons de la mer. Voyez donc comme dès le principe un riche trésor nous est ouvert. Le saint prophète, éclairé d'une lumière divine, parle d'un fait non encore existant, comme s'il était réalisé. Car pourquoi ici cette parole au singulier, « Faisons l'homme », et là, cette parole au pluriel, « qu'il domine ». Évidemment, il y a là un secret et un mystère, et cette façon de parler indique par avance la formation de la femme. Ainsi, tout dans nos saintes Écritures a sa raison et son motif, et un mot qui semble mis au hasard renferme une précieuse instruction. Et ne vous étonnez point, mes chers frères, de ce langage, car tous les prophètes parlent des événements futurs comme s'ils étaient déjà accomplis. Il voit en esprit ce qui ne doit arriver que dans la suite des siècles, et il le raconte comme s'il se réalisait sous leurs yeux. Pour vous en convaincre, écoutez cette prophétie de la passion du Sauveur, prophétie que tant de siècles à l'avance prononçait le saint roi David. Ils ont percé mes pieds et mes mains, et ils se sont divisés mes vêtements. Il parle d'un événement futur et lointain, comme si déjà il était accompli. C'est ainsi que Moïse nous insinue tout d'abord, sous le voile de l'énigme et du mystère, la formation de la femme, quand il dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Mais bientôt, il en parle plus clairement, car il ajoute « Et Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Et observez ici avec quel soin l'écrivain sacré répète deux fois le même fait, afin de mieux le graver dans la mémoire de ses lecteurs. Si telle n'avait pas été son intention, il se serait contenté de dire « Et Dieu créa l'homme », mais il ajoute « Il le créa à son image ». Précédemment, il nous avait expliqué le sens de ce mot « image », et ici, il le répète à dessein, et il nous dit « Et Dieu le créa à son image ». Il a voulu aussi ne laisser aucun prétexte d'excuse à ceux qui attaquent les dogmes de l'Église. C'est pourquoi il a expliqué plus haut le sens de ce mot « image » qu'il entend de l'empire que l'homme devait exercer sur tous les animaux. Mais poursuivons le récit de la Genèse. Après avoir dit que Dieu les créa mâle et femelle, Moïse rapporte en ces termes la bénédiction commune que Dieu leur donna. Et le Seigneur, dit-il, les bénit, disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et vous l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer. Quelle éminente bénédiction! Cet ordre, croissez, multipliez et remplissez la terre, avait été intimé, il est vrai, aux animaux et aux reptiles. Mais il n'a été dit qu'à l'homme et à la femme, commandez et dominez. Admirez donc la bonté du Seigneur. La femme n'existe pas encore, et il l'a fait entrer en participation de l'autorité de l'homme et des privilèges de la bénédiction divine. Dominez, leur dit-il, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. Mais qui pourrait mesurer l'étendue de ce pouvoir et apprécier la grandeur de cet empire? Et ne voyez-vous pas que toute la création a été soumise au sceptre de l'homme? Ainsi, vous ne devez avoir de cet animal raisonnable aucune idée petite et médiocre, car ses honneurs sont grands, la bonté du Seigneur à son égard est immense, et ses bienfaits aussi étonnants qu'ineffables. Et Dieu dit, « Voilà que je vous ai donné toutes les plantes répandues sur la surface de la terre, et qui portent leurs semences, et tous les arbres fruitiers qui ont leurs germes eux-mêmes pour servir à votre nourriture. » Et il fut fait ainsi. Considérez, mes chers frères, la souveraine bonté du Seigneur. Pesez attentivement les paroles de l'Écriture et n'en perdez pas une syllabe. Et Dieu dit, « Voilà que je vous ai donné toutes les plantes. » Il continue ainsi à s'adresser à l'homme et à la femme, quoique celle-ci n'ait pas encore été formée. Admirez également l'excellence de cette bonté qui se montre éminemment libérale et généreuse, non seulement envers l'homme et envers la femme qui n'existaient pas, mais aussi envers tous les animaux. Car après avoir dit « Voici que je vous ai donné les plantes de la terre pour servir à votre nourriture », le Seigneur ajoute « Et à celle de tous les animaux de la terre ». Ici se déclare un autre abîme de bonté, puisque le même Dieu qui pourvoit aux besoins des animaux, qui servent à nos besoins, à nos travaux et à notre nourriture, n'en exclut point les animaux sauvages et féroces. Et qui parlerait dignement de cette infinie bonté ? Voilà, dit le Seigneur, que toutes les plantes serviront à votre nourriture et à celle de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel et de tous les reptiles qui rampent sur la terre et de tout ce qui est vivant et animé. Ces paroles nous montrent la paternelle providence du Seigneur à l'égard de l'homme qu'il vient de créer. Car après l'avoir créé, il lui donne un empire souverain sur tous les animaux et de peur qu'il ne s'effraie à la vue d'une si grande multitude qu'il lui faudrait nourrir, il prévient jusqu'à la pensée de cette inquiétude et lui déclare qu'il a ordonné à la terre de pourvoir par sa fertilité à sa nourriture et à celle de tous les animaux. Or, tous les commandements du Seigneur furent immédiatement exécutés et toutes les créatures se trouvèrent disposées dans le rang et l'ordre qui leur avait été assigné. C'est pourquoi Moïse ajoute immédiatement « Et Dieu vit toutes ses œuvres, elles étaient très belles ». On ne peut assez louer l'exactitude de la Sainte Écriture, car par cette seule parole « Et Dieu vit toutes ses œuvres », elle ferme la bouche à tous les contradicteurs. Dieu vit donc toutes ses œuvres et elles étaient très bonnes, et du soir et du matin se fit le sixième jour. Moïse dit après chaque création particulière « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais quand l'ensemble de la création a été achevé et l'œuvre du sixième jour complétée par la formation de l'homme pour qui l'univers avait été fait, il observe que Dieu vit toutes ses œuvres et qu'elles étaient très bonnes. Ce mot « toutes ses œuvres » comprend l'universalité des créatures et les renferme toutes dans un même éloge. Et observez qu'ici, Moïse dit expressément « toutes les œuvres de Dieu » et non pas seulement « toutes choses ». De même qu'il ne dit pas qu'elles étaient bonnes, mais très bonnes, c'est-à-dire qu'elles étaient éminemment bonnes. Mais puisque le Seigneur qui a tiré toutes les créatures du néant les trouve très bonnes et éminemment bonnes, quel est l'insensé qui oserait ouvrir la bouche pour le contredire ? Dieu acheva donc le sixième jour toute son œuvre et se reposa le septième de tous les ouvrages qu'il avait faits. Qu'est-ce à dire que Dieu se reposa le septième jour de tous les ouvrages qu'il avait faits ? Évidemment, l'Écriture s'exprime d'une façon humaine et se proportionne à notre faiblesse. Sans cette condescendance, il nous aurait été impossible de comprendre sa pensée. Et Dieu, dit-elle, se reposa le septième jour de tous les ouvrages qu'il avait faits, c'est-à-dire qu'il s'arrêta dans l'œuvre de la création et qu'il cessa de tirer du néant de nouvelles créatures. En effet, Il avait produit toutes et chacune des créatures, et il avait formé l'homme qui devait en jouir. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'il s'était reposé en ce jour de tous les ouvrages qu'il avait faits. Le Seigneur cessa donc de créer, parce que dans l'espace de six jours, il avait produit toutes les créatures auxquelles sa bonté destinait l'existence. Il se reposa donc le septième jour, ne voulant plus rien créer, car selon ses desseins, l'œuvre de la création était achevée. Mais pour que ce septième jour ait lui aussi quelques prérogatives et qu'il ne soit pas inférieur aux autres jours, puisqu'il ne devait éclairer aucune production nouvelle, il daigna le bénir. Et Dieu, dit l'Écriture, bénit le septième jour et le sanctifia. Quoi donc ? Est-ce que les six autres jours n'avaient pas été bénis ? Sans doute, ils l'avaient été, puisque, en chacun d'eux, le Seigneur avait produit différents ordres de créatures. Voilà pourquoi l'Écriture ne dit pas expressément que Dieu les bénit, tandis qu'elle mentionne ici la bénédiction du septième jour. « Et il le sanctifia », dit-elle encore. Que signifie ce mot « et il le sanctifia » ? Il nous apprend que Dieu distingua ce jour de tous les autres, et l'Écriture nous en révèle la raison quand elle ajoute que Dieu sanctifia le septième jour parce que dans ce jour il se reposa de tous les ouvrages qu'il avait faits. C'est ainsi que, dès le commencement, un grand mystère nous est révélé et que nous apprenons à sanctifier un jour de la semaine en le consacrant aux exercices de la piété. Ce repos du septième jour nous rappelle que Dieu daigna le bénir après avoir achevé dans six jours l'ensemble de la création et qu'il le sanctifia parce que dans ce jour, il s'était reposé de tous les ouvrages qu'il avait faits. Mais ici, les pensées se présentent à flot pressé et je me reprocherai de ne pas vous les communiquer, car elles me paraissent riches et je veux vous faire part de leur richesse. Et d'abord, voici la première question. Dans la Genèse, Moïse nous dit que Dieu se reposa de ses œuvres et dans l'Évangile, Jésus-Christ dit « Mon Père agit toujours et moi aussi ». Ne sent-il pas au premier coup d'œil qu'il y ait ici une contradiction manifeste ? Mais à Dieu ne plaise que l'Écriture soit opposée à l'Écriture. Quand elle nous dit dans la Genèse que Dieu se repose des ouvrages qu'il avait faits, elle nous enseigne que le septième jour, il cessa de créer et de tirer du néant de nouvelles créatures. Lorsqu'au contraire Jésus-Christ nous dit « Mon Père agit toujours et moi aussi », il nous manifeste l'action incessante de la Providence et il nomme action ou opération ce soin qui dirige l'univers, le maintient et le conserve. Et comment subsisterait-il si la main du Seigneur cessait un seul instant de soutenir et de conduire les hommes, les animaux et les éléments ? Au reste, il suffit de réfléchir sérieusement sur les bienfaits dont le Créateur nous comble chaque jour pour reconnaître combien est immense l'abîme de ses miséricordes. Et pour n'en citer qu'un seul trait, quelles paroles et quelles pensées pourraient exprimer cette ineffable bonté qui, toujours généreuse envers l'homme, fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes et les pécheurs et qui fournit abondamment à tous leurs besoins. Voyons immédiatement la suite avant de revenir sur ce dixième chapitre qui est très important. Homélie onzième, qu'il faut estimer la vertu, imiter les saints qui, étant de même nature que nous, l'ont pratiquée excellemment, la négligence sera sans excuse. Dans cette homélie, prononcée un des deux jours de la semaine où l'on ne jeûnait pas, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche, saint Jean Chrysostome interrompt l'explication de la Genèse et traite d'un sujet moral, l'estime de la vertu et l'imitation des saints. Donc ceci étant, cette rubrique nous expliquant pourquoi cette onzième homélie appartient quand même au recueil, nous revenons sur la mention très importante du septième jour. Dieu le bénit et le sanctifia. C'est vrai que Jean Chrysostome fait à ce propos une réflexion tout à fait importante en complétant ce récit par Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit toujours et moi aussi » pour montrer que c'est l'incessante action de la Providence qui maintient l'univers et le conserve. Et donc, dans ce sens-là, le Père agit toujours et le Fils avec lui. Mais quant à la mention du septième jour, elle est aussi très belle et très importante parce qu'elle nous fait voir que la création ne s'achève pas dans la production, dans le travail. Et donc, le sommet de la création, c'est le repos. D'entrer dans le repos, nous verrons dans la lettre aux Hébreux tout un chapitre consacré à cette... je crois que c'est le chapitre 4 de la lettre aux Hébreux qui nous invite à rentrer dans le repos du Seigneur. Mais vraiment, la finalité de la création, ce n'est pas la production, ce n'est pas le travail. Le travail est nécessaire et est voulu par le Créateur, mais l'homme est créé pour entrer dans le repos et entrer pleinement dans le repos que le Seigneur a préparé pour lui. Voilà qui donne une orientation tout à fait différente à nos jours et à nos années, et qui est selon la volonté même de notre Créateur. Donc, remercions le Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir donné cette finalité à l'homme, ta créature, et de ne pas l'avoir laissé à ses propres démons pour s'enfermer dans une production effrénée qui ne serait pas qui ne remplirait pas son cœur, mais qui le laisserait dans un grand vide. Voilà, cette émission est un peu plus courte qu'à l'accoutumée parce que notre 11e homélie, en fait, est une homélie morale que nous n'avons pas retranscrit. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation avec les programmes de votre radio chrétienne et vous donne, quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre avec l'œuvre de Jean Chrysostome. Au revoir.
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans, par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.